Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reprend Maseret Shabbat, Daf Bet Amoud Bet, les deux dernières lignes. Amarle Rav Matla le Abaye. Dans notre Mishnah, on a énuméré 8 cas. 2 qui sont 4, plus 2 qui sont 4. Au total, 4 plus 4, ça fait 8. La Gemara nous demande pourquoi est-ce qu'on considère qu'il y a seulement 8 cas. En vérité, il y a 12 cas. Les 4 cas de la fin, où on a défini qu'il y avait 4 cas, c'est parce qu'on a une association de malfaiteurs. On a deux personnes qui ont décidé de faire chacun une Khatsi Melacha. Donc les deux sont Ptourim. Donc chacune de ces personnes a fait une Khatsi Melacha. Donc en fait, c'est 8 cas, 8 définitions d'une demi-Melacha. Donc c'est 8 de la fin, plus 4 du début. Ça fait 12. Donc la Gemara nous demande, « Ah, t'as Avian, comment est-ce que tu me dis que c'est 8 ?»« Tartesre Avian, en fait, c'est pas 8, c'est 12. » Parce que dans les 4 cas de la fin, c'est 4 divisé par 2 fois 2 personnes. Ça fait 8 cas, donc ça fait 12. Velita Amir, on réagit comme un bon juif, on pose une question. Shit, c'est Réavian. Mapitom, comment est-ce que tu peux me dire que c'est seulement 12 si tu poses déjà cette question? On va plus loin, pose une meilleure question. En vérité, c'est 16. Pourquoi? Parce que dans les 4 cas de la Récha, les 4 premiers, on dit qu'ils sont Chayav Minatora. Mais ils ont été associés par quelqu'un qui est Patour. Donc en fait, on a combien de cas où c'est Patour? On a 12 cas de Patour et 4 cas de Chayav. Ben, aux dernières nouvelles, 12 plus 4, ça fait 16. Donc comment se fait-il que tu as calculé seulement 8 et dans ta question, tu as calculé seulement 12 alors que tu aurais pu calculer 16? Allo, Kachia. Bishlama bava derecha Patour mutar. Lo katane. Aval, ela bava de sefa de Patour aval asur Kachia. La Gemara répond comme ça. Et on passe au Daf Gimel. C'est pas une, que la Gemara répond sur la question des 16. Lokashia, bish lama bava derecha, au début, quand on a dit qu'ils étaient 4, et on n'a pas calculé qu'ils étaient 8 dans les interdits Minatora, Patour ou Moutar, non seulement celui qui n'a rien fait, il est Patour, mais en plus, il a le droit de le faire. Lokatane, c'est pour ça que cela, il n'y a aucun intérêt à nous les enseigner. Bava de Sefa, mais dans la fin de la Mishnah, des Patour à Valassour, cela, c'est Patour, il ne sera pas puni, mais c'est interdit, on avait besoin de les présenter. Et donc, notre question initiale, pourquoi 8 et pas 12, elle est encore une bonne question. J'explique un petit peu. À chaque fois que c'est marqué Patour, ça veut dire qu'il n'a pas, il n'est pas censé recevoir de punition. Quelqu'un qui a brûlé un feu rouge et qui a eu la chance ou la malchance d'être mal éduqué, mais en tous les cas, qui ne s'est pas fait attraper par la police, donc il est Patour. Mais est-ce que ça veut dire que c'est moutard? Bien évidemment que non. Donc, on peut te dire dans la Mishnah Patour, tu ne seras pas puni, mais ça ne veut pas dire moutard. Dans notre Mishnah, celui qui transgresse l'interdit, le Baal HaBayit, qui fait sortir quelque chose et qui donne dans la main du pauvre et qui a tout fait lui tout seul, lui a transgressé l'interdit. Le Hani qui a réceptionné, il n'a rien fait. Donc, c'est Patour et moutard. Et donc, il n'y a aucun intérêt à nous enseigner. La Gemara va s'attaquer à cette définition de Patour et moutard. Mi'ika bekule Shabbat Patour ou Moutard. Comment est-ce que tu peux me dire que c'est Patour et Moutard? Que la personne qui a réceptionné, qui était passive, elle, non seulement elle n'a pas transgressé l'interdit, mais elle avait le droit de le faire. Veha, man Shmuel. Pourtant, Shmuel nous a enseigné. Kol Ptouré de Shabbat Patour avalasour, barméanet lat. À chaque fois qu'il est marqué dans la Mishnah de Shabbat Patour, l'intention de la Mishnah, c'est de nous dire c'est vrai, tu ne seras pas puni, mais ça reste interdit. Barméanet lat, à part 3 exceptions. Donc comment est-ce que tu peux me dire que les 4 cas dans la Mishnah, celui qui a transgressé l'interdit Minatora, il est chayav, celui qui n'a rien fait, il est patour, et c'est aussi moutard, c'est pas vrai? On sait qu'on a une règle, qu'il y a seulement 3 exceptions, et ces 3 exceptions, c'est pas les cas de notre Mishnah. Donc chez nous aussi, ça devrait être patour et assour. Quelles sont les 3 exceptions? Tzedat tzvi, tzedat nachash, ve ma fils moursa. On a un interdit de chasser un animal pendant Shabbat. Chasser un animal, pas au sens qu'on connaît aujourd'hui, à savoir tuer cet animal, mais le chasser pour l'emprisonner, pour le garder chez soi. On a un serf qui est rentré dans une maison, et de la même manière qu'il est rentré, il aurait pu sortir, quelqu'un est venu à bloquer l'entrée, il s'est mis devant la porte, et le serf ne peut plus passer par l'embrasure de la porte. Donc cette personne-là a bloqué le serf, il a lui-même transgressé l'interdit de chasser pendant Shabbat. Si une seconde personne vient se mettre exactement dans la même position que la première, et que la première a quitté la porte, le deuxième n'a rien fait. Parce qu'en fait, la situation, elle était que le serf était déjà emprisonné. Donc, il n'a rien rajouté. Nous dit Shmuel, quand c'est marqué au sujet du serf Patour, Patour, c'est pas seulement Patour, mais c'est Patour et Moutard aussi. Autre cas qu'on ramène, Tzedat Nachash, attraper un serpent. Donc on ne parle pas d'un serpent qui est dangereux, parce que bien sûr, un serpent qui est dangereux, Pikoach Nefesh Duchekola Torakula, on parle d'un serpent qui est dérangeant. Donc je l'attrape pas pour le garder, je l'attrape pour qu'il ne me casse pas les pieds. Donc Tzedat Nachash, c'est ce qu'on appelle, c'est défini par Melachash et Natsecha Legoufa, c'est-à-dire que j'ai aucun intérêt à garder l'animal chez moi. Et puisque la définition de la Torah de Tzeda, de chasser, c'était quand tu voulais garder l'animal pour toi, tu voulais l'attraper pour t'en servir, et toi, dans ce cas-là, tu n'as aucune envie de t'en servir, c'est ce qu'on appelle Melacha She'ena Tzricha Legufa. C'est quelque chose qui est moutard, qui n'est pas puni par la Torah. Vient Rabbi Shimon dans cette Mishnah, elle nous dit que c'est patour, et Shmuel nous dit patour et moutard. Dernier cas, mes fils Moussa, celui qui a un bouton avec du pu et qui veut faire sortir le pu, alors s'il n'est pas en train de s'occuper de guérir son bouton et de le faire une ouverture spéciale pour que le pu ne revienne pas, il a le droit de l'ouvrir le pu. Pourquoi ? Parce que l'interdit qu'il aurait pu avoir, c'est ce qu'on appelle Asiyat Petar, faire une porte, faire une ouverture. Mais puisque lui, il n'est pas en train de faire une ouverture, il est seulement au contraire de faire une sortie pour le pu. Donc c'est encore une fois Melachashina Tchalegoufa, et c'est pour ça que c'est Moutar. C'est ce que Shmuel a dit. C'est ce que Shmuel a enseigné, ce sont les seules trois exceptions où c'est marqué Patour et Moutar. Donc la Gemara pose une question, comment est-ce que tu as pu me dire que dans la Recha, dans notre Mishnah au départ, c'était Patour, celui qui était passif était Patour, et non seulement Patour, mais aussi Moutar, alors que Shmuel nous a donné qu'il n'y avait que trois cas. Répond la Gemara, aucun rapport. Kitz tarich le Shmuel Ptouré de Kavil Maasé, Ptouré de Lo Kavil Maasé et Katouvé. Shmuel parle d'une catégorie spéciale. C'est quoi cette catégorie ? Quelqu'un qui a fait un acte et qui aurait dû être puni sur l'acte qu'il a fait. Et on te dit, il est patour. Non seulement il est patour, mais en plus, c'est moutard. Ça, c'est quand il a été actif. Mais dans notre Mishnah, la personne est inactive. Elle ne fait rien. Elle réceptionne. Quelqu'un qui fait une akira et qui lui dépose dans la main, j'ai rien fait. C'est sûr que dans ce cas-là, c'est patour et c'est moutard puisque je n'ai rien fait. Je précise que c'est moutard par rapport à l'interdit de Shabbat. Mais si le pauvre n'avait pas d'autre endroit pour déposer ce qu'il voulait déposer que dans les mains du balabait, la personne qui aura réceptionné transgressera un interdit qui s'appelle Lifne Iver Lotitel Mirchol, puisqu'il a aidé quelqu'un à transgresser l'interdit qu'il n'aurait pas pu transgresser tout seul. Mikol Makom. La Gemara a dit, bon, ok, on a passé l'étape, on comprend qu'on avait 16 cas initiales, il y a 4 qui sont vraiment aucun rapport, les 4 personnes inactives qui n'ont rien fait, qui ne sont pas tout remoutin. Tartesre Avian, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas marqué 12 ? L'Agmara nous explique. Ptouré, Deate, Beou, Lede, Riou, Fratat. Ceux qui sont patour et qui auraient pu arriver à un niveau d'interdit où ils auraient eu une obligation d'amener un korban, Kachashiv. C'est ceux qu'on a comptés dans notre Mishnah. Deloate, Beou, Lede, Riou, Fratat, Lo Kachashiv. Ceux dans lesquels il n'y a aucune chance d'arriver à une obligation de Khatat, on n'a pas besoin de les compter. De quoi on parle ? Dans la Melacha, comme on l'a dit au départ, dans la Melacha de Otsa, il y a au moins 2 étapes, Akira et Anacha, c'est-à-dire mise en déplacement et arrivée. Quelqu'un qui fait qu'une partie de la Melacha, il est aussi Asomi de Rabanan. Celui qui fait la première partie de la Melacha, le risque, il est, si on n'avait pas interdit, qu'il continue. Et donc, il aurait pu hâter l'idée Riouf Ratat. Il aurait pu arriver à transgresser l'interdit de Shabbat et à être hayav d'amener un korban. Celui qui fait la seconde partie, l'objet est arrivé à destination. Il n'y a pas de risque que maintenant il transgresse. De la même manière qu'on a tous des objets à la maison et on ne va pas nous dire « Ah, attention, il y a un risque que tu transgresses ». Non, à partir du moment où nos objets sont déposés quelque part, on n'est pas en train de se dire « Peut-être que tu vas maintenant transgresser ». Dans l'absolu, si tu sais qu'on peut déposer des choses, tu risques aussi de les faire sortir. Donc c'est pour ça que c'est aussi interdit. Dans notre Mishnah, on a compté simplement toutes les mises en déplacement, toutes les akirotes, tous ceux qui, dans cet acte même, il y a un risque que tu ailles plus loin et que tu te transgresses. Combien de akirot on a ? On en a 4. 2 du pauvre et 2 du balabait. Le pauvre qui se trouve à l'intérieur et qui va aller vers... le pauvre qui se trouve à l'extérieur et qui va aller vers l'intérieur, il a 2 possibilités de akira. Ou alors, avant d'avoir passé la frontière de la maison, ou alors après avoir passé la frontière de la maison de akirot, le balabait de même, avant d'avoir passé la frontière de l'extérieur, ou après avoir passé la frontière de l'extérieur. Donc on aura 4 akirot au total qui risquent d'arriver à plus loin, 4 mises en départ, 4 mises en déplacement qui arrivent à arriver à plus loin, qui risquent d'arriver en plus loin. C'est pour ça qu'on a compté seulement ces 4-là. Au total, on en a 8. On a fini avec ce sujet qui était l'explication du pshat de la Mishnah. La Gemara pose une autre question. Finalement, dans la Sefa, on voit que 2 personnes qui ont fait chacun une moitié de Melacha, personne n'est embêté. Ptourim, ils n'ont aucune punition. Pourtant, entre eux deux, ils ont fait une melacha. Certains expliquent que la question de la Gemara, c'est que les deux auraient dû être Hayav d'un Korban. D'autres expliquent que la question de la Gemara, le deuxième qui a finalisé la Melacha, devrait au moins lui être Hayav d'un Korban. Shneem Pturim, dans la Mishnah, c'est marqué que les deux sont Pturim, Ve'ait Avida Melacha mi Benayou. Mais entre eux, ils ont réussi à finaliser la Melacha, association de malfaiteurs. Tania Rabbi Omer, Me'amaretz Ba'asota. Me'amaretz Ba'asota, dans le passage au sujet du Korban Khatat, quand on a fait une Avera, il y a marqué Ba'asota. Et on comprend, de la Gemara, elle explique que ce passage, c'est Ba'asota quand il l'a fait. Quand il l'a fait entièrement. Ha'oset Kula, Velo Ha'oset Miksata. Yachid Ve'asota, Chayav, Shneem Ba'asota Pturim. Donc celui qui l'a fait entièrement, il est chayav. S'il l'a fait avec quelqu'un d'autre, s'il n'a fait qu'une seule partie de la melacha, il est pas tour. Amar Rabbi Chaya bar Gamda, Nizrek Ami Pichabura, Ve'amru Ba'asota Yachid She'asa Chayav, Shneim She'asa Wa Pturim. Ce rav a dit qu'ils étaient aussi un groupe de rabbanim, des moraïm, qui ont dit exactement la même chose. Ba'asota, il faut le faire la totalité. Donc si tu ne fais qu'une seule partie, si on le fait à deux, on n'est pas tour parce que c'est ça les règles qui ont été établies dans le pasouk. Il faut faire l'entité pour être hayav d'un korban. Ba'emine Rav Mirebi. Rav était, on passe à un autre sujet, Rav était l'élève de Rebi. Rebi est celui qui a écrit les Mishnayot. Rav était à la frontière des Tanaïm et des Moraïm. Il était l'élève de Rebi, celui qui a écrit les Mishnayot. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que Rav Tana ou Palig, Rav a le droit d'être en désaccord avec les Tanaïm puisqu'il les a côtoyés. It ino chavero ochlin umashkin veotzian nachut mahu. Alors Rav va poser une question qui est vraiment d'actualité. Quelqu'un qui a quelque chose dans sa poche et qui sort avec cette chose-là. Donc lui n'a pas pris un objet pour le faire sortir, il est sorti et il a évidemment sorti ses poches avec lui. Est-ce qu'on considère que l'objet a été déplacé de son endroit initial ou pas? Est-ce qu'on considère qu'il y a eu une mise en déplacement de l'endroit initial ou pas? Pourquoi est-ce qu'on pourrait considérer qu'il n'y a pas eu de mise en déplacement? Parce que par définition, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas de porter, c'est de se déplacer. Donc il n'est pas en train de déplacer un objet, il est en train de se déplacer. Donc la Gemara a un safek, Akirat Gufo, qui est Akirat Rafet Mimkomo, quand il déplace son corps, est-ce que je considère qu'il est en train de déplacer quelque chose de son endroit? Damé, est-ce que ça ressemble à ça? Ou Mikhayev, et c'est pour ça qu'il serait Khayav de Korban? Odil Malo, est-ce que non? Est-ce qu'on va considérer qu'il n'y a pas eu de déplacement, puisque c'est lui qui est en train de se déplacer, et non pas l'objet? Amarle Khayav. Il est oui Khayav. Et il anticipe tout de suite une question. Ve'enot domé le yado. Et ça ne ressemble pas au cas de yado. C'est quoi le cas de yado? Dans la Mishnah, il y a marqué que si sa main se trouvait à l'intérieur, donc le pauvre est à l'extérieur, sa main est à l'intérieur, et le Baal HaBayit a déposé quelque chose dans sa main, quand il fait sortir l'objet, le ani, le pauvre qui se trouve à l'extérieur, est patour. Si on suppose que l'objet, quand il est déposé dans sa main à l'intérieur, il est déposé, et Rebbe vient nous enseigner que Akirat Gufo, quand je me déplace, c'est considéré comme Akirat Achefet. C'est oui considéré comme si je suis en train de déplacer quelque chose. Donc j'ai un objet qui se trouve à l'intérieur, je suis en train de le déplacer, j'aurais dû être Hayav. Pourquoi est-ce que quand je me déplace avec quelque chose dans ma poche de l'intérieur vers l'extérieur, je suis pas tour? Quand je déplace quelque chose qui est sur ma main de l'intérieur vers l'extérieur, je suis Hayav. Ve'eno de Meliado, Rebbe lui dit attention, c'est pas de Meliado. Pourquoi? Ma'itama, Gufo Nair, Yado lo Nair. Son corps, le corps de la personne est posé. Ça veut dire quoi? Il est posé. Le corps se trouve dans un endroit. La personne se trouve dans un endroit. Tout ce qui se trouve sur cette personne, entre guillemets, tout ce qui se trouve dans ses poches, sont aussi définis comme se trouvant dans cet endroit. Ils ne sont pas forcément définis comme se trouvant dans sa poche qui se trouve à tel endroit. Puisque son corps se trouve à tel endroit, quand il déplace les choses, l'objet, au final, a été déplacé d'un endroit A à un endroit B. Il y a eu Otsa, il y a eu transport. Par contre, quand l'objet se trouve dans la main de quelqu'un, cette main-là, elle n'est pas définie comme un endroit. La main n'est pas posée sur la terre, elle est en l'air. On ne sait pas exactement comment définir quelque chose. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans la Moulbet. Comment définir quelque chose qui se trouve sur la main de cette personne? Puisqu'on ne peut pas définir que cette chose-là est déposé à cet endroit, c'est pour ça que quand il fait sortir sa main vers l'extérieur, il n'est pas puni, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui a fait Otsa. Amarle, on tourne la page. Amarle, Rabbi Chia le Rav. Rabbi Chia était l'oncle de Rav. Bar Parti, fils de grand, ça veut dire c'est un chevar. Il lui dit, bon, je sais que tu es quelqu'un d'important. Loa minalach, n'est-ce pas que je t'ai dit, ki ka'e rebi be'ama serta, quand Rabbi est en train d'étudier un sujet, lot eshaile be'ama serta achrite, ne lui pose pas une question, aucun rapport. Il est en train d'étudier maserhet Megillah et tu lui poses une question sur maserhet Shabbat, ça n'a aucun rapport. Dilma lavadate, peut-être qu'il ne va pas savoir te répondre correctement. Des ilav des rebi gavri rabba avakasifte, et peut-être que rebi aurait été gêné. Des méchan el archinouya, des lav chinouya, ou peut-être qu'il t'aurait répondu quelque chose qui n'est pas correct. Ashta, mais en l'occurrence, dans ce cas-là, miat shapir méchan el arch. En vérité, même dans ce. C'est vrai que tu as posé une question hors sujet, mais il t'a bien répondu. Des tanya, aya taoun ochlin ou mashkin mi vodion, votian lechutz mi shechachechach, hayav, les fiches et nos domeléado. Quelqu'un qui avait ses habits, qui était. Donc il avait quelque chose dans la poche de ses habits, mi beodium depuis la veille de Shabbat, et il a porté son habit Shabbat et il est sorti avec, il est chayav. Pourquoi est-ce qu'il est chayav? Parce qu'on considère que ce qu'il avait pendant le début du Shabbat à l'intérieur de la maison, et maintenant il sort, c'est un déplacement. Donc il y a eu Akira et Anacha à l'extérieur. Et c'est différent de Yado, comme on l'a dit auparavant. La main n'est pas déposée quelque part, donc elle ne peut pas être considérée, l'objet qui est sur la main ne peut pas être considéré comme en dépôt à cet endroit, il est en stand-by. Donc on ne peut pas définir le transport comme une Akira, comme un déplacement, puisqu'il n'avait pas d'endroit approprié. Amar Abaye, on passe à un autre sujet. Pshitali, je sais pertinemment. Yado chez la dame Ena, lo kirshut arabim velo kirshut ayachid. La main d'une personne n'est pas définie ni comme un reshut ayachid, ni comme un reshut arabim. La définition de reshut arabim, très grossièrement, c'est un endroit qui est utilisé par le public. La définition d'un endroit comme reshut ayachid, aussi très grossièrement, c'est un endroit qui est défini et qui est utilisé par une personne, par une seule personne. Yado chez la dame, la main d'une personne, alors c'est un endroit qui est utilisé seulement par cette personne en général, elle n'est définie ni comme Reshut Arabim, ni comme Reshut Ayachid, comme va le prouver Abaye de notre Mishnah. Et en fait, ce que Abaye va se poser comme question, c'est est-ce que la main a une définition à elle-même, ce qui va avoir un impact, comme on va le voir dans 2 minutes. L'Odamia, Kirshut Arabim, l'Odamia, elle ne ressemble pas au Reshut Arabim, Miyado Dehani. Je vois de l'histoire de notre Gemara, je vois que la main n'est pas considérée comme un Reshut Arabim. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Mishnah que si jamais le Baal HaBayit, le pauvre a fait rentrer sa main, et le Baal HaBayit prend quelque chose de là-bas, les deux sont Pturim. Si on considérait que la main était considérée comme Reshut Arabim, quand le Baal HaBayit vient prendre quelque chose de cette main. Donc il aura fait lui, Akira, de Reshut Arabim, et il l'aura fait rentrer tout de suite dans Reshut Ayachid, donc il aura transgressé l'entité de l'interdit de Shabbat. Or, on voit dans notre Mishnah qu'il est patour. De la même manière, Kirshut Ayachid l'Odamiem, il y a d'autres de Baal HaBayit. Le même cas, quand le Baal HaBayit se trouve à l'extérieur, sa main se trouve à l'extérieur, et le pauvre récupère quelque chose de cette main-là, donc il a une main qui est à l'extérieur. Si elle était définie comme le Baal HaBayit, à savoir Reshut Ayachid, celui qui viendrait faire une Akira, celui qui viendrait déplacer, prendre quelque chose de cette main qui est vers l'extérieur, lui aussi aurait dû transgresser. Or, on voit qu'il ne transgresse pas. Donc cette main-là n'est pas définie, ni comme Reshut Arabim, ni comme Reshut Ayachid. On a une définition d'un Chazal, d'un Reshut, d'un endroit comme Carmélite. Carmélite, Rashi sur place, nous dit que ça rappelle un langage de forêt. La forêt dans la Torah n'est définie ni comme un Reshut Arabim, ni comme un Reshut Ayachid. Bien que, évidemment, ce n'est pas un Reshut Ayachid puisque c'est entièrement ouvert, mais ce n'est pas un Reshut Arabim non plus parce qu'on n'a pas l'habitude, il n'y a pas de va-et-vient dans cette forêt, donc elle est définie ni comme Reshut Arabim, ni comme Reshut Ayachid. Et c'est pour ça que Chachamim ont défini cet endroit comme Carmélite, comme quelque chose qui est forêt. C'est-à-dire qu'il n'est ni Reshut Arabim, ni Reshut Ayachid, et l'impact de cette définition, c'est que si on a un Reshut Arabim ou un Reshut Ayachid qui est juste à côté de la Carmélite et qu'on voudrait déplacer quelque chose de la Carmélite vers le Reshut Arabim ou vice-versa, ça serait interdit. Vient Abaye avec une question intéressante. On est d'accord que la main n'est définie ni comme Reshut Arabim, ni comme Reshut Ayachid. Donc elle est ni l'un ni l'autre. Donc en fait, on se trouve dans la définition de Carmélite, comme Rashi nous a dit. Tout ce qui est ni l'un ni l'autre est défini comme Carmélite. Donc est-ce qu'on pourrait considérer que cette main-là est comme Carmélite? Et alors, quel intérêt? vient Abaye avec une question intéressante. Imaginons que quelqu'un a sorti sa main, il y avait quelque chose à la fenêtre, il a la fenêtre de chez lui, en bas c'est défini comme un Reshout Arabim, on ne va pas rentrer dans la définition de Reshout Arabim, Nagid qu'il habite sur les Champs-Élysées, il est à sa fenêtre et il fait sortir quelque chose de sa fenêtre. Donc maintenant cette chose-là, elle se trouve dans sa main à l'extérieur. Cette chose-là, elle est définie comme étant dans une carmélite. Et lui, il se trouve dans un Reshout Ayachid. Est-ce qu'il a l'obligation de rester comme ça tout Shabbat? Parce que rentrer sa main, ça voudrait dire transgresser l'interdit Midérabanan. Parce que ce qui se trouve à l'extérieur sur sa main est défini comme étant dans une carmélite. Ce qu'il va faire rentrer à l'intérieur est défini comme Reshout Ayachid. Et on sait qu'on n'a pas le droit de faire rentrer de carmélite à Reshout Ayachid ou vice-versa. Donc nous dit Abaye... Est-ce que la main d'une personne, Marouche est assez que carmélite, est-ce qu'on pourrait la définir comme une carmélite? Mi kansoa Rabbanan le adouré le gabé holo. Est-ce que Rabbanan l'ont puni parce qu'il a fait un demi-interdit quand il a sorti sa main de Reshout Ayachid à Reshout Arabim? Il a fait un demi-interdit, comme on l'a dit auparavant. C'est vrai que c'est pas tour, c'est pas assourmi la Torah, mais c'est assourmi de Rabbanan. Est-ce qu'il a été puni pour avoir transgressé cet interdit mi de Rabbanan ou pas? Tashma. Aïta, yadom et la perro de voter à la route, tanechada assour. L'Arzira, Vetaneidar, Motar l'Arzira. On a une marloquette justement dans le cas précis de Abaye. Est-ce que quelqu'un qui a fait sortir quelque chose à l'extérieur, est-ce qu'il a été puni et on lui a interdit de la ramener à l'intérieur ou pas? Maïlav, n'est-ce pas? Béa Kamifligé, qu'on peut dire que leur marloquette est justement à ce sujet-là. Mar Savar, que Carmélite Damia. Il y en a un qui te dit qu'on considère que la main, elle est comme Carmélite, c'est pour ça que c'est assourd, c'est interdit de l'amener vers l'intérieur. Ou bien savoir, lave que carmélite d'Amia. Il y en a un qui pense qu'elle n'est pas définie comme carmélite, et puisqu'elle n'est pas définie comme carmélite, alors tu as le droit de la rentrer à l'intérieur. L'eau. La Gemara va donner 6 réponses à cette question. Découle Alma, que carmélite d'Amia. Vous savez quoi? D'après tout le monde, elle est définie comme carmélite. Velo kashia. Kan le mata measara, kan le mala measara. Dans la définition de Reshout Arabim, ce qui est défini comme Reshout Arabim, c'est jusqu'à une certaine hauteur. Au-dessus des Champs-Élysées, c'est Reshout Arabim. Mais jusqu'à où? Jusqu'à une certaine hauteur, cette hauteur, c'est à peu près 1 mètre Asarat Fahim. Quelqu'un qui aurait fait sortir quelque chose à l'extérieur, au-dessus de Asarat Fahim. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une demi-melacha. C'est quoi une demi-melacha? Akira. Et il a fait sortir. Il n'a pas fait Anacha. Et l'endroit vers lequel il a fait sortir n'est pas non plus défini comme Reshout Arabim. Donc il a fait quelque chose, l'acte en lui-même est défini comme moutard, et il l'a fait sortir vers un endroit qui est moutard. Pourquoi est-ce que je le punirais? Donc dans ce cas-là, sa main n'est pas définie comme carmélite, c'est pour ça qu'il a le droit de le rentrer. Par contre, si jamais il l'a fait sortir à moins de la hauteur de Djid Fahim, donc là on considère que c'est Reshout Arabim, donc celui qui a fait sortir sa main, il a transgressé un interdit minatora. Puisqu'il a transgressé un interdit minatora, lui, ça, on va le punir et on va définir sa main comme carmélite et il va devoir rester tout Shabbat comme ça. Donc, on a expliqué qu'en fait, d'après tout le monde, c'est pas une marloquette, d'après tout le monde, sa main est définie comme une carmélite. Viba et Tema, deuxième possibilité d'expliquer la marloquette entre les deux braïtot. Idi va idi le matame à Sarah. Bémet, on parle d'un cas où on est moins que Djid Fahim, mais donc il n'a rien fait en fait. Velav que carmélite d'Améa, tu sais quoi, tout le monde est d'accord que la main n'est pas considérée comme une carmélite. Mais, velo kashia, kalmi beodium, kalmi shecha shecha. Ça dépend s'il a fait sortir sa main en journée, avant Shabbat, ou dès que Shabbat est rentré. Pourquoi? S'il l'a fait en journée, donc en fin de compte, ce monsieur il n'a rien fait du tout. Parce que quand il a fait sortir sa main, il avait le droit de la faire sortir sa main. Donc pourquoi est-ce que tu voudrais le punir? Il n'a rien fait. Par contre, s'il a fait ça le soir, quand Shabbat est déjà rentré, ou n'importe quand dans la journée de Shabbat, puisqu'il a transgressé un interdit, un début d'interdit, Midérabanan, lui a été puni pour lui apprendre qu'il n'a pas le droit de faire sortir sa main. On va définir, on va lui interdire de rentrer sa main, mais on ne va pas définir sa main comme carmélite. Et pourquoi est-ce qu'on ne va pas définir sa main comme carmélite? Parce que si on considère sa main comme carmélite, même quelqu'un qui aurait fait sortir avant Shabbat sa main à n'importe quelle hauteur, puisque c'est considéré comme une carmélite, il n'aura plus le droit de la rentrer. Donc d'après cette réponse, tout le monde est d'accord que ce n'est pas défini comme carmélite. Et là, la Gemara fait une parenthèse. En fait, c'est le sujet qu'on va développer un peu plus tard. Si c'est quoi ta logique de dire que ça dépend si c'est Mid-Beodium ou Mishéchachéra, s'il l'a fait avant Shabbat ou pendant Shabbat? S'il l'a fait avant Shabbat, bon, tu dis, ce n'est pas grave ce qu'il a fait, Donc, on va le laisser tranquille. Mais s'il l'a fait pendant Shabbat, on va le punir. Mais qu'est-ce qui va se passer quand tu vas le punir? Donc, tu lui dis de rester avec sa main comme ça. Mais de le laisser avec sa main comme ça. Toi, tu voulais l'éduquer et lui apprendre que c'était interdit, même une Khatsi Melacha. Mais en fait, toi, Chachamim, t'as empiré les choses. Parce qu'imagine quelqu'un qui reste comme ça tout Shabbat. Parce qu'imagine que quelqu'un reste comme ça tout Shabbat. Le problème, il va être fondamental. Il risque d'arriver à quelque chose de plus grave. Il risque d'arriver à une situation où il ne pourra pas tenir tout au long de... tout au long du Shabbat avec sa main comme ça, et donc il va déposer l'objet à l'extérieur, ou il va le jeter parce qu'il en a marre, et donc grâce à toi, Chachamim, il aura transgressé Shabbat. Et on a une situation parallèle. On a un interdit qui s'appelle Rediyat Tapat. En fait, au temps de Chachamim, comment est-ce qu'on faisait du pain? Ça existe aujourd'hui aussi dans les taboun. On collait la pâte sur les murs du four. Coller la pâte sur les murs du four, bon, quand on fait rentrer dans le four, on est en train de transgresser un interdit. Maintenant, imaginons que j'ai une pâte qui est collée sur le four avant Shabbat, et pendant Shabbat, je veux la décoller. C'est aussi Assur Midrabanan. Pourquoi? Deux raisons possibles. Ou alors que ça, quelque chose qu'on a l'habitude de faire le jour de Chol, on ne le fait pas pendant Shabbat. Ou alors parce que si on te permet de t'occuper d'une cuisson, un jour, tu risques de t'occuper aussi d'une cuisson ou de mettre au four autre chose. Donc, on a interdit de décoller la pâte qui est sur les parois du four. Quelqu'un pendant Shabbat, par erreur, a oublié que c'était Shabbat ou a oublié que c'était interdit, a collé de la pâte sur le four. Et deux minutes après, il se rappelle, ah mais c'est Shabbat, c'est assour. Maintenant, qu'est-ce qu'il a envie de faire? De décoller cette pâte avant que la pâte soit cuite. Parce que tant que la pâte n'est pas cuite, il n'a pas transgressé l'interdit de cuisson. Donc il veut enlever, décoller cette pâte. Mais décoller, c'est assour midrabanan. Viens, la Gemara, Rav Bibi Bar Abaye, pose une question. Vaïe Rav Bibi Bar Abaye, idbik paket batanour. Il s'est posé la question, est-ce qu'on va faire sauter un interdit des Rabbanan pour ne pas arriver à un Issur Minatora? La Gemara, puisqu'elle pose une question. Ce Rav Bibi, il a une bonne question. Est-ce que Rabbanan ont annulé leur interdit quand il y a un risque de transgresser un interdit Minatora? Mais de notre façon d'expliquer, les deux braïtotes, celle qui dit qu'on a l'interdit de rentrer sa main, et celle qui dit qu'on a le droit de rentrer sa main, de notre façon d'expliquer, qu'on peut déjà trancher le safek. Pourquoi? On a dit que la Braïta qui disait que c'était patour, qu'il avait le droit de rentrer sa main, on parle d'un cas où il a fait ça, mi be'odium, avant Shabbat. Mais s'il l'a fait après Shabbat, lui, il a transgressé un interdit, alors lui, il sera puni. Mais ta punition de Chachamim, c'est ça qui va l'amener à transgresser un interdit Minatora. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit de cette façon de lire les deux braïtot que bien qu'on risque à travers notre knas, notre punition des Rabbanan, de l'amener à Issur Torah, eh ben ça ne nous dérange pas. On va entretenir, on va laisser ce knas sur place et on va le laisser arriver à prendre des risques. Je vais le lire dans les mots. Aderaba. Au contraire, Ifra Mistabra, on aurait dû dire le contraire. Mi Beodium, s'il l'a fait Mi Beodium, s'il l'a fait avant Shabbat, De Isha Dele Loatele Dehri Ufratat, même s'il jette l'objet qu'il a dans la main dans le Reshut Arabim, il n'aura pas transgressé d'interdit Liknesse Rabbanan. C'est pour ça que Rabbanan ont dit bon, ben, lui, on va l'éduquer parce qu'il n'y a aucun risque. Mi Shecha Shecha, par contre, si jamais je le punis quand quelqu'un qui a fait ça pendant Shabbat, De Isha Dele, si jamais il jette le cette chose-là, alors. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre le risque, parce que si jamais tu le punis, tu prends un risque, il arrive à l'interdit Minatora. Donc comment se fait-il que tu as pris ce risque? Donc ça veut dire que toi tu as décidé que ta façon de faire c'est je pense qu'il faut punir, je punis. Ah, peut-être que je prends un risque de faire plus grave, c'est pas grave. La Gemara dit allo Kashia, petit shot, ok. Ben, t'as trouvé la façon de trancher, et ben tranche. Ça veut dire quoi tranche? On a un Emora qui s'est posé une question, on a d'autres Emorim qui se sont pas posé la question, et ben lui il avait la question, eux n'avaient pas la question. Veiba et Tema. Troisième réponse pour expliquer pourquoi est-ce que les deux braïtotes sont complémentaires. Veiba et Tema, Leolam, Lotif Shot. Mehemet, on ne peut pas trancher notre safek de cette lecture. Pourquoi? Parce qu'on a un pshat dans les braïtotes. Celui qui veut regarder le soit pose une question très simple et incompréhensible sur cette gemara. Velo kashia. Kan beshogeg, kan bemezid. Quelqu'un qui a fait sortir sa main sans faire exprès, lui ne sera pas puni. Par contre, quelqu'un qui a fait sortir sa main en faisant exprès, lui sera puni. Velo kansa rabanan. Quand c'est pas fait exprès, il n'a pas été puni. Mais quand c'est fait exprès, il a été puni par Rabbanan. Viba et Tema, quatrième réponse. Il dit Vaïdi Beshogag, Vaha Bekansu Shogag, Atou Mezid, Kamuflegue. Donc la Mishnah nous dit que les deux braïtotes parlent de quelqu'un qui a fait Beshogag. Bemezid, en faisant exprès, c'est sûr qu'il doit être puni. Mais il y avait une marloquette, est-ce qu'on punirait aussi quelqu'un qui a fait Beshogag? Pourquoi? Parce qu'on voulait justement que notre éducation des gens, de leur faire attention à cet interdit, soit effective. Si quelqu'un avait pour habitude de le faire parce que ça ne le dérangeait pas de transgresser un interdit, il n'aurait pas été dérangé aux yeux des gens. Parce qu'il peut dire non, mais je n'ai pas fait exprès de le faire sortir, c'est pour ça que je le fais rentrer. Donc il y a un avis qui te dit qu'on aurait été connaisse, qu'on aurait puni même quelqu'un qui est shogeg. Comme ça, les gens s'habituent, on aurait éradiqué le problème, les gens se seraient habitués à ne pas faire même une demi-milacha. Donc on a une marloquette, est-ce qu'on a puni celui qui est shogeg pour anticiper le mezid? Il n'y a aucun cas où la personne va être punie. Velokashia, et là on passe à Davdalet en haut. Velokashia, kan lechatzer acheret. Quand est-ce qu'on a interdit de ramener sa main, c'est pas vers l'endroit où je me trouve, c'est seulement dans Khatser Acheret, dans un autre endroit. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, j'aurais puni? Parce que là, les gens bémettes risquent de s'habituer. Moi, je veux faire sortir quelque chose de chez moi, ça me dérange. Maintenant, si je voulais le mettre dans Reshut Arbim, ah mince, j'ai pas le droit. Bon, c'est quoi, je vais le mettre dans Khatser Acheret, dans un autre endroit. Donc les gens vont s'habituer trop facilement à déplacer, c'est pour ça que dans ce cas-là, on a interdit que des maïs n'y ravent pas Rav Nachman. Cette question a été posée par Rav Nachman. Aïtaï et Dame la Perot, sa main était pleine de fruits. Veot, si à la route, il l'a fait sortir. Maoule Arzira, l'Ota Khatser. Est-ce qu'il peut le refaire rentrer dans ce même Khatser, la même question qu'on s'est posée? Amarle Moutar, il a dit c'est Moutar. Le Khatser Achet Maou. Est-ce qu'il peut le déplacer vers un autre endroit? Amarle Assou, c'est interdit. Ouma Ishna, quelle différence? Dans les deux cas, il n'a rien fait. Dans les deux cas, c'est le même niveau d'interdit. Alors il lui a dit, va manger plein de sel. C'était une blague habituelle chez les Moraïm. Ça veut dire, je vais t'expliquer tout de suite. Atam lo et avida marchavto, acha et avida marchavto. Quelqu'un qui voulait faire sortir, hein, et qui en fin de compte a réussi à faire sortir. C'est plus chez lui, c'est autre part. Donc il va s'habituer à faire comme ça. Donc lui, il dit, c'est quoi, t'as pas le droit de le mettre dans un chéret, parce que les gens vont s'habituer à le faire sortir de cette manière. Par contre, si tu le ramènes en fin de compte, tu le ramènes chez toi, donc t'as rien gagné. Qu'est-ce que t'as gagné à le faire sortir et à le faire entrer? Donc en conclusion, on a vu plusieurs sujets dans notre Mishnah. On va résumer. La première question, c'était de savoir, est-ce que combien de cas énumérés dans la Mishnah et pourquoi est-ce qu'on en a énuméré 8 sur 16 possibles? Sur les 8 autres possibles, on a répondu 4 parce qu'il est patour et c'est moutard, c'est dans le cas de Minatora quand on est passif. Sur les 4 autres derniers, on a dit que puisque c'était seulement dans notre Mishnah, on a seulement parlé de ceux qui étaient, qui étaient à risque de finaliser le Melacha, mais pas ceux qui étaient après avoir terminé, après avoir fait la deuxième partie de Hanacha. On a eu le safek de quelqu'un qui était en déplacement. Est-ce qu'on considère que, puisqu'il se déplace, les objets qui sont sur lui sont déplacés aussi? On a conclu que oui. On a eu la question de Abaye, est-ce que sa main est considérée comme une carmélite? Et on a ramené que la nafkamina, l'importance de savoir ça, c'était est-ce qu'il avait le droit de ramener sa main? Et on a vu plusieurs explications entre deux braïtot, à savoir une braïta qui dit que c'est interdit, une braïta qui dit que c'est permis. La première explication, c'était que la différence entre permis et interdit, ça dépend s'il l'a fait sortir au-dessus de 10 tfachim ou moins de 10 tfachim. Au-dessus de 10 tfachim, il a transgressé aucun interdit, c'est pour ça que c'est moutard. Moins de 10 tfachim, au-dessus de 10 tfachim, il a transgressé un interdit, c'est pour ça qu'il est au-dessus de 10 tfachim, il a transgressé aucun interdit, c'est pour ça que c'est permis. Moins de 10 tfachim, il a transgressé un interdit, c'est pour ça que c'est interdit. Deuxième réponse, ça dépend s'il a fait ça avant Shabbat ou après Shabbat. Avant Shabbat, pas d'interdit, c'est permis. Après Shabbat, transgresser l'interdit, c'est assourd. Troisième réponse, on a voulu dire le contraire. Celui qui a pris le risque, celui qui a fait ça avant Shabbat peut lui être puni, mais celui qui a fait ça pendant Shabbat ne peut pas être puni. Quatrième réponse, on a dit que ça dépendait si c'était Shogeg ou Mezid. Encore une fois, dans le même ordre d'idée, le Shogeg ne peut pas être puni, le Mezid peut être puni. Cinquième réponse, Shogeg à tout Mezid, le Mezid est puni, mais le Shogeg n'est pas puni. Et il y a quelqu'un qui dit que on veut éradiquer le problème, alors on va punir tout le monde, interdit de ramener. Et dernière réponse, l'interdit, c'est simplement de ramener dans un Khatser Acheret. Mais dans le Khatser lui-même, c'est moutard de ramener À bientôt à tous.
Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.